Radio France Internationale, il est 5h à Paris, 3h en temps universel et 23h à Ottawa.
Marion Cazanov.
Au Canada, la joie mesurée des libéraux vainqueurs des législatives, mais sans majorité absolue au Parlement, ils échouent à 3 sièges près, mais devraient pouvoir faire des alliances avec de petits partis. Le Premier ministre canadien Mark Carney reste donc au pouvoir, lui qui assurait l'intérim, et Donald Trump, son voisin américain, a fini par décrocher son téléphone pour le féliciter. Donald Trump, qui célèbre aujourd'hui ses 100 jours à la Maison-Blanche, on fait le bilan de ce début de mandat toute la journée sur RFI, notamment dans une édition spéciale ce matin des 6h10, temps universel. 5 ressortissants indiens enlevés au Niger alors qu'ils travaillaient sur un barrage. 12 soldats qui assuraient leur sécurité ont été tués lors du rapt. Et puis en France, Manuel Valls espère arracher un accord en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer organise une 3e session de discussion dans ce territoire du Pacifique Sud, secoué par des tensions entre loyalistes et indépendantistes. Au Canada, si les libéraux ont remporté les législatives anticipées avec 43,7% des voix contre 41,3% contre les conservateurs, et ils auront quand même un regret puisqu'on sait à présent qu'ils n'auront pas la majorité absolue au Parlement après le dépouillement il y a quelques heures des derniers bulletins. Marine de la Moissonnière, le parti de Mark Carney est pourtant passé tout proche.
Avec 169 députés, il ne manque que 3 sièges aux libéraux pour avoir la majorité absolue. Pour gouverner, Mark Carney va devoir nouer des alliances avec les petits partis représentés à la Chambre des communes, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Le Premier ministre a donc gagné son pari. Cette victoire, personne chez les libéraux n'aurait osé en rêver. Il y a encore quelques semaines, au début de l'année, les conservateurs étaient donnés vainqueurs avec plus de 20 points d'avance. Même s'ils s'inclinent, le parti de Pierre Poilievre a réalisé un bon score. Il décroche plus de députés que lors de la dernière législature. Reste que Pierre Poilievre a été battu dans sa circonscription. Or, le chef de l'opposition doit forcément siéger à la Chambre basse. Un député de son camp devrait se sacrifier et démissionner. Le Premier ministre convoquera alors des législatives partielles. Pour l'heure, Mark Carney a des dossiers plus urgents à gérer. Tout en haut de la pile, Donald Trump, bien sûr. Les deux hommes se sont appelés hier. Ils ont prévu de se rencontrer en personne rapidement. Marine de la Moissonnière, Ottawa, RFI.
Donald Trump, justement, fête aujourd'hui ses 100 jours à la Maison-Blanche, 100 jours marqués par des renversements d'alliances, la guerre commerciale, une politique anti-immigration très stricte avec des expulsions massives d'immigrés. Le président américain s'est lui-même félicité de ce bilan hier lors d'un meeting dans le Michigan devant ses partisans. Il a parlé des 100 jours les plus réussis de l'histoire américaine et a promis « Nous ne faisons que commencer ». Donald Trump a aussi critiqué l'opposition démocrate, des gauchistes cinglés selon lui. Une opposition qui, en 100 jours, sera restée particulièrement silencieuse. Les démocrates ont du mal à se faire entendre dans ce concert de déclarations fracassantes et de décrets. Et cela frustre ses électeurs démocrates, rencontrés par Édouard Maille à Louisville, dans le Kentucky.
Assise à la terrasse d'un bar, Lorraine profite du soleil de printemps. La situation avec les démocrates est décevante, explique celle qui regrette le manque d'action.
Leurs discours sont très passionnés, mais j'aimerais voir plus de choses concrètes, avec des lois et des législations pour les mettre en œuvre.
Quelques tables plus loin, Jacqueline aimerait que les responsables démocrates soient plus agressifs face aux méthodes des républicains.
Je ne dis pas qu'ils devraient bafouer les procédures juridiques, mais si l'autre côté le fait, alors les démocrates doivent montrer cette même combativité pour contrer ce qu'il se passe.
Pour Lila, les démocrates ont tout simplement perdu le sens des priorités.
Le parti démocrate actuel met beaucoup en avant ses politiques progressistes sur le plan social pour compenser le manque d'action pour les classes populaires.
Selon le sondage Harvard Capsaris effectué en avril, 42% des électeurs approuvaient les démocrates, un chiffre en hausse par rapport au mois d'avant, mais toujours en dessous de celui des républicains avec 51% d'avis favorables. Édouard Maille, Louisville dans le Kentucky, RFI.
Dans sa guerre commerciale, Donald Trump a décidé il y a quelques heures d'alléger un peu l'impact des droits de douane pour les constructeurs auto. Ceux qui produisent aux États-Unis ne paieront désormais que les taxes sur l'automobile et n'auront pas accumulé les autres taxes, par exemple sur l'acier ou l'aluminium. Et on revient toute la journée sur RFI sur ces 100 jours au pouvoir de Donald Trump. Édition spéciale des 6h10, temps universel dans RFI Matin avec Andréane Mellard, avec nos reporters sur place. place nos invités. Vous donnez aussi votre avis sur ce début de mandat dans Appel sur l'actualité. Tout à l'heure, 8h10, TU avec Juan Gomez. Vous nous appelez au 33 9 693 693 70.
RFI.
Au Niger, 5 travailleurs indiens ont été enlevés. Ils travaillaient alors dans la région de Tillabéri sur le fleuve Niger à la construction du barrage de Kandaji. Le rapt a eu lieu le 25 avril, vendredi dernier, mais on ne l'a appris que lundi. 12 soldats nigériens ont été tués au cours de cet enlèvement. Les détails avec Pierre Firsion.
Ces hommes ont été enlevés non loin de la bourgade de Sakoira, dans la région de Tillabéri. Tous travaillaient pour le compte d'une entreprise chargée de la construction de la ligne électrique du barrage de Kandaji. Selon la presse indienne, ces travailleurs sont originaires du district de Giridi, dans l'état indien du Jharkhand. Ces 5 ressortissants ont été enlevés vendredi, après une attaque djihadiste, attaque qui a coûté la vie à 12 soldats nigériens qui assuraient la sécurité de ces travailleurs. Les ravisseurs ont ensuite pris la fuite avec leurs otages en direction de la frontière malienne toute proche. Cette zone, au nord de la région de Tillabéri, située à la jonction des trois frontières, est actuellement sous le contrôle de l'EIGS. Si pour l'heure Niamey n'a pas communiqué sur cet enlèvement, les autorités indiennes s'activent, elles, pour obtenir une libération rapide des otages. Selon la presse indienne, le gouvernement de l'état du Jharkhand a déclaré lundi avoir intensifié ses efforts pour faire libérer ses ressortissants, une action menée en collaboration avec le ministère indien des affaires étrangères.
Pierre Firsion. Le Pakistan, lui, craint une attaque de son voisin indien. Le gouvernement d'Islamabad a dit hier soir disposer de preuves crédibles d'une frappe militaire indienne imminente. New Delhi a promis de répliquer après l'attentat de la semaine dernière au Cachemire indien. Attentat qui a fait 26 morts, des touristes. L'Inde estime que le Pakistan est responsable. Les États-Unis ont appelé hier à la désescalade. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu avec des responsables des deux pays, hier aussi, pour leur exprimer son inquiétude et leur demander d'éviter la confrontation. L'Inde, où on vient de l'apprendre, un incendie fait au moins 15 morts dans un hôtel à Calcutta, dans le nord-est. L'incendie est désormais sous contrôle, précise la police. RFI, 3h07 en temps universel, 5h07 à Paris. En France, Manuel Valls lance de nouvelles discussions en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer est arrivé hier soir dans ce territoire français du Pacifique Sud, secoué par des tensions entre indépendantistes et non-indépendantistes. Au pic de la crise il y a un an, des affrontements avaient éclaté, 14 personnes avaient été tuées. Manuel Valls est donc sur place pour la troisième fois en 2 mois et il espère bien, Victorien Villaume, arracher un accord.
Entrer dans une véritable phase de négociation. Voilà l'espoir de Manuel Valls qui devrait mettre sur la table dans le cadre de ce troisième déplacement un projet d'accord politique. La première mouture soumise au début du mois n'avait pas convaincu les indépendantistes car ils veulent que l'accord fixe un horizon pour l'exercice du droit à l'autodétermination. C'est en effet le principal sujet de crispation, reconnaissent les non-indépendantistes. Philippe Gomez du parti Calédonie Ensemble.
Quand, comment ? Jamais, comme demandent les loyalistes, ou c'est dans 5 ans, comme demande le FNKS. Bon, comment le ministre, au bout du compte, tranche les choses sur le sujet au nom du gouvernement et au nom de l'État, ça va être l'un des enjeux majeurs.
Le ministre des Outre-mer espère également avancer sur d'autres sujets de fond, une loi fondamentale et la réforme du corps électoral. Mais il le sait, la marche est haute, je dois concilier l'inconciliable, résumé récemment Manuel Valls. L'aspiration à l'indépendance d'un côté, un attachement profond à la France de l'autre. Manuel Valls appelle l'ensemble des protagonistes politiques calédoniens à faire un pas vers l'autre et d'ajouter, sans accord, l'incertitude économique et politique peut conduire à nouveau à la guerre civile.
Victorien Villaume du service politique de RFI. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, restera sur place en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 8 mai, soit un peu plus d'une semaine. Enfin, en football, vous l'avez suivi hier soir sur RFI. Le Paris Saint-Germain fait un pas vers la finale en Ligue des Champions avec son premier succès 1-0 hier soir contre Arsenal en demi-finale aller à Londres. Il faudra confirmer au match retour mercredi prochain à domicile sur la pelouse du Parc des Princes. En attendant, l'autre demi-finale aller se joue ce soir. Barcelone accueille l'Inter Milan en Catalogne. Coup d'envoi 19h temps universel. Pour l'heure, 5h10 à Paris, 3h10 en temps universel. À suivre le grand reportage.